hors champ. Bonjour, hors champ aujourd'hui avec Jean-Yves Joanet. Jean-Yves Joanet, je ne sais pas très bien qui vous êtes, car vous êtes plusieurs Jean-Yves Joanet. Vous êtes à la fois commissaire d'exposition, spécialiste d'art contemporain, auteur de nombreux livres dans des domaines et des disciplines jamais abordées, comme par exemple un livre très important sur les châteaux de sable ou un autre encore plus important sur les nains de jardin, sur un traité de l'idiotie. Vous êtes aussi l'auteur d'une invention aussi, on peut dire, une sorte de performance qui dure depuis des années sur votre obsession de la guerre, et vous êtes auteur de livres comme par exemple L'usage des ruines et le dernier qui vient de sortir, La bibliothèque de Hans Reiter. Autant de titres énigmatiques qui sont comme des mises en abîme, des citations de citations de citations pour mieux vous masquer.
Mais j'ai pas grand-chose à cacher, pourtant c'est vrai que c'est je ne me cache pas. Je suis simplement curieux de sujets que je ne maîtrise pas. J'ai l'impression de passer ma vie à trébucher sur des questions. Enfin, donc c'est en tant que non spécialiste de pas grand chose que je m'avance.
C'est déjà beaucoup de le savoir.
Oui, puis de le reconnaître. C'est-à-dire que je comprends pas grand chose à quoi que ce soit. Donc,
vous êtes un idiot. C'est pour ça peut-être que vous avez fait ce très beau livre sur art, vie, politique, méthode de l'idiotie.
Oui, j'aurais aimé être un vrai idiot. Enfin, j'ai l'impression de pas vraiment y arriver. Mais en tout cas, oui, je me pose des questions. Et il y a certaines de ces questions dont je me dis qu'elles nécessitent du temps, de la réflexion. Et puis c'est vrai, je plonge dans les châteaux de sable, comme dans l'idiotie, comme dans les nains de jardin. Et puis j'en ressors pour passer à un autre chantier. Non pas que j'épuise, je m'épuise dans ces recherches-là. Mais voilà, la vie est courte et puis il y a encore...
Vous êtes très jeune, donc vous avez beaucoup encore de champs disciplinaires à inventer.
Oui, sauf que l'un de ces chantiers que vous citiez, à savoir l'Encyclopédie des guerres, qui a commencé en 2008, est un chantier au long cours, celui-ci. C'est-à-dire que il est difficile d'imaginer pouvoir m'en sortir avant une vingtaine d'années, puisque c'est un abécédaire qui a commencé à l'entrée Amour et qui va finir à l'entrée Zouave dans une vingtaine d'années. Voilà, donc pour le coup...
C'est vous qui vous fixez ces buts ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que l'Encyclopédie des guerres est une collection de citations qui se constitue au jour le jour, au fil de mes lectures de livres de guerre. Et puis voilà, donc j'ai face à moi aujourd'hui une matière qui compte 8 millions de signes dans mon ordinateur. Et je sais qu'il me reste 700 entrées à achever, entre guillemets. Et donc il faut du temps. Voilà, donc c'est une estimation.
Vous allez peut-être abandonner ?
Peut-être, oui, ou peut-être qu'on va me virer avant terme, mais
qui peut vous virer, un général
ou un amiral?
On reviendra sur cette obsession de la guerre, parce qu'avant il y a eu aussi une série de hasards, mais en même temps on construit sa chance dans la vie, qui vous a amené vers l'art contemporain, puisque vous avez commencé à travailler à Art Press, ensuite vous êtes devenu rédacteur en chef de Art Press. Mais avant Art Press, est-ce qu'il y a eu une interrogation sur le statut d'artiste ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la nécessité d'être un propre artiste dans sa propre vie, de l'inventer, ce statut-là ?
Il y a eu... Alors, vous m'emmenez très loin, mais alors ça m'intéresse pour le coup d'y réfléchir avec vous, parce que j'avais... Il y a très longtemps, il y a eu un groupe d'amis qui s'appelait la Société Perpendiculaire. La Société Perpendiculaire, ce sont des jeunes gens, on a 18 ans, on se rencontre à l'université de Poitiers, on était des étudiants en lettres et en philosophie, pour la plupart d'entre nous. C'est essentiellement une histoire d'amitié, Mais très productive, pas simplement en termes sentimentaux, mais en termes intellectuels. C'est-à-dire qu'on a appris à réfléchir ensemble. Et c'est parce qu'on était ensemble qu'on a réfléchi et désiré plonger dans ces univers de la littérature et de l'art. Donc, pour le coup, c'est avec...
Là, vous aviez 16-17 ans.
17-18 ans, oui, oui. On portait des cravates très laides à fleurs. On aimait beaucoup, ça nous faisait beaucoup rire. On buvait beaucoup. Et puis, on a commencé à s'intéresser à l'art contemporain ensemble. Voilà, donc... Je ne sais pas si de moi-même, du fait de mon milieu social, je serais arrivé à... J'aurais accédé tout simplement à cet univers-là. Et donc c'est une impulsion de groupe qui m'a fait m'intéresser et m'a projeté dans un univers qui n'était pas le mien, a priori, socialement.
Et c'était quoi le vôtre ?
Toute petite bourgeoisie provinciale. Et pour le coup, je dois beaucoup à ce groupe-là, à ces gens qui sont demeurés mes amis. Mais l'art contemporain, oui, ça vient de cette curiosité collective.
Alors, ce groupe qui vous a constitué, Jean-Yves Joinet, c'est un groupe qui a eu des répercussions encore aujourd'hui, qui a constitué une revue qui s'appelle Perpendiculaire, qui a permis l'émergence de certains talents, dont le vôtre, mais aussi celui de Michel Houellebecq. Nous allons l'écouter au micro de Vincent Ravalec au moment de la parution des Particules élémentaires, parce que tout ça, c'était le même flux, le même fluide. C'est une archive du 9 septembre 1998.
Là, dans le même passage, il s'aperçoit que son demi-frère est indiscutablement un individu puisqu'il va mourir. Mmh. Et que sa mort lui appartient, quoi. Et... Là, dans ce livre, il y a vraiment de la mort. Et la mort, ça vous individualise un homme, quoi. Quand on sait que quelqu'un est mort, qu'on essaye de reconstituer sa vie, là, on a l'impression qu'une vie individuelle a eu lieu. Sinon, avant, moi, je trouve que c'est pas net. Hein. J'ai fréquemment des doutes. Moi, j'ai toujours eu des doutes depuis que j'étais... petit.
Alors, on vient d'entendre donc la voix de Michel Houellebecq au moment de la publication des Particules élémentaires, qui reste quand même un livre très important, à la fois sur le plan littéraire. Quoi que dise aujourd'hui Michel Houellebecq et ses positions récentes, mais ce livre-là, je trouve, a été non seulement un traité générationnel, un traité d'un renouveau de l'écriture en France. Et puis aussi, il est formidablement porteur d'une cartographie des maux de notre société. Il a des côtés prophétiques. Que s'est-il passé avec Houellebecq dans le mouvement Perpendiculaire et pourquoi vous êtes-vous fâché, Jean-Yves Joinet ?
Ça vous intéresse vraiment, j'ai l'impression.
Si ça contribue à éclairer l'histoire intellectuelle, culturelle et artistique de notre modernité, oui. Et je crois que ça nous intéresse de savoir ce qui s'est passé.
Alors, je vais bien vous faire confiance. J'ai refusé récemment de collaborer à, entre guillemets, à un numéro des Cahiers de Lerne consacré à Michel Houellebecq. Enfin, refusé de collaborer, parce que j'ai pas eu envie de parler de cela tant d'années après. Parce que Houellebecq était mon ami.
Il est mal barré s'il fait des numéros spéciaux de Lerne.
En tout cas, c'est son choix, j'imagine. Non, à l'époque, j'étais à Arpège, j'ai eu la chance de pouvoir écrire peut-être un des premiers papiers qui a été écrit sur un livre de Michel Houellebecq. C'était sur « Rester vivant, méthode », recueil de poésie. J'ai reçu un jour une petite carte toute mal foutue, dans une enveloppe toute fripée, et il était écrit « J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui aime mes livres ». À quoi peut ressembler quelqu'un qui aime mes livres ? Ça m'a beaucoup touché, on s'est rencontrés... un salon du livre, on est devenus très très amis, je crois, enfin je l'ai cru, enfin peut-être que je me suis leurré, et c'est moi qui l'ai entraîné dans l'histoire des Perpendiculaires. Donc il a fait partie du mouvement, c'est pas un mouvement, c'est un comité de rédaction qui était publié par Flammarion à l'époque, et puis il y a eu les Particules élémentaires en effet. Et les Particules élémentaires nous a donné l'occasion d'un entretien, les membres du comité et Michel. Et puis là, il s'est laissé à dire des choses qui, moi, m'ont profondément chagriné. Voilà, que le désir est la pire des abjections, que des choses qui ont été publiées, puisque c'était le dernier numéro de la revue Perpendiculaire, où nous avions décidé de nous séparer de Michel, parce que, voilà...
Politiquement incorrect.
On n'était plus d'accord, enfin, c'est pas... Après, on nous a dit, voilà, c'est les procès de Moscou, enfin... Puis on peut avoir des opinions, essayer de les défendre. Enfin, c'est tout bête, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et ne pas être d'accord, ça ne retire rien au talent de Michel Houellebecq. Et donc, bah, Michel, je l'ai jamais revu depuis. Et je pense souvent à lui. Parce que ce qui a préexisté à cette brouille, c'est, comme avec les perpendiculaires, une histoire d'amitié. Voilà, on a fait la fête ensemble, et ça, je m'en souviens très bien.
Mais l'amitié, manifestement, dans votre écriture, est quelque chose de très important. Là, je me réfère à la lecture de certains fragments de votre livre sur les barrages de sable, où vous évoquez cette période de la fin de l'adolescence et de la constitution du groupe. Et on voit bien que sur les plages, où vous séjournez pendant très longtemps, vous regardez pas seulement les filles, mais le mouvement de la mer, vous construisez des châteaux de sable avec des pères et des enfants, etc., etc. On sent bien que ce qui fait sens, c'est l'amitié. L'amitié où vous arrivez à penser ensemble. Et puis, il y a eu un moment, Jean-Yves Jouannet, où vous avez commencé à penser tout seul. Et ça, est-ce que ce moment, ça a été celui de la rencontre avec l'art contemporain ?
Non, je crois pas qu'il y ait eu ce moment-là en particulier.
Parce que vous saviez rien à l'art contemporain quand vous avez commencé à travailler à Art Press.
Non, tout à fait. Mais est-ce que je connais quelque chose à la littérature ? Je ne sais pas tellement. Je crois qu'il y a une chose, en revanche, que j'ai cru devoir apprendre. C'est apprendre à me sentir autorisé à faire des choses ou à dire des choses. Comment se fait-il que je m'engage pour le reste de ma vie à imaginer oralement une encyclopédie des guerres alors que je ne connais rien à la chose ? Il y a un moment donné où cette peur qui nous saisit tous, parce qu'on a la peur, si c'était un muscle, est peut-être le muscle qui produit continuellement son action sur nos corps, sur nos vies. Et on a peur d'être ridicule, on a peur d'être abandonné, on a peur de mourir, on a peur de souffrir, on a peur de. Et il faut qu'à un moment donné, cette peur cesse. Et que voilà, si j'ai envie de parler de la guerre, je parle de la guerre. Et j'ai pas peur qu'on me dise, mais écoutez, jeune freluquet, de quoi parlez-vous ? Vous n'avez pas souffert dans votre corps ? Quelle est votre légitimité pour... De la même manière que des francs-maçons... Moi, je ne suis pas franc-maçon, des francs-maçons viennent me voir à l'issue des encyclopédies des guerres. De la même manière que je suis un frère sans tablier, j'ai l'impression d'être un soldat sans armes ou un... Voilà, de m'autoriser aujourd'hui à parler de choses que je ne maîtrise pas. Voilà, je ne vais pas attendre, parce que je sais que je ne vais pas vivre 1500 ans, de maîtriser quelques notions de philosophie ou de littérature ou de guerre pour en parler. Voilà, c'est une décision de mon vivant, en tant que vivant, voilà, et je suis seul pour le coup, et là je commence à répondre à votre question, aujourd'hui je suis seul à décider ce dont je suis à même de parler.
Alors, il faut préciser, Jean-Yves Jouannet, que cette encyclopédie des guerres que vous avez commencé en 2008 se fait par différents mouvements. Il y a un mouvement de votre propre corps, vous mettez en jeu votre propre corps sous forme de performance que vous faites publiquement, soit au Centre Pompidou à Paris, soit à Reims, où vous arrivez sur un plateau de théâtre. C'est du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre parce que vous ne jouez aucun rôle si ce n'est le vôtre, mais enfin, en même temps, j'imagine qu'il y a un espace de fiction entre le personnage que vous êtes et qui lit des textes sur la guerre, et puis vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et puis, il y a aussi un mouvement d'écriture, parce que ça donne lieu à des livres absolument passionnants, qui sont comme des espèces de grandes bibliothèques, différentes, hétérogènes, à la fois sur le plan géographique, sur le plan chronologique, sur le plan des sources. Il faudrait parler peut-être de Abby Warburg et rappeler qui c'était, parce que votre tentative, qui s'est concrétisée depuis maintenant 2008, elle a été finalement précédée par celle de Warburg.
Mmh. Alors, c'est un bon exemple. Mon entreprise a été précédée de bien beaucoup d'expériences, mais celle de Warburg, historien de l'art allemand, père de ce qu'on a appelé l'iconologie, voire l'iconographie, a traversé la guerre, la Première Guerre mondiale pour le coup, et s'est penché après coup sur des documents, des archives, des photos, tentant de comprendre ce qui avait ravagé l'Europe pendant ces années de guerre. Comprendre ce phénomène-là. Et pour ce faire, il s'est donc penché sur différents types de documents. Et ce faisant, a commencé à germer une drôle de folie, une terrible folie dans son esprit. Il a fini par croire, ou commencé par croire, que peut-être, se concentrant ou se penchant sur ces images de guerre, il avait été, a posteriori, responsable de cette guerre. Que se pencher sur les désastres d'une guerre était nous rendre responsables de ce phénomène même. Il était interné, il est sorti de cet asile psychiatrique, et il a constitué ce qu'on appelle Mnemosyne. Mnemosyne sont des immenses albums d'images où il a collé, juxtaposé différents types d'images, de sources, d'époques différentes pour tenter de comprendre, comme un botaniste se pencherait sur la vie des fleurs, la vie propre des signes et des symboles.
Et vous, n'avez-vous pas la crainte de devenir fou comme Abby Warburg?
La différence avec Warburg, il y en a beaucoup, évidemment, je ne veux pas me comparer à ce grand homme, mais la différence, c'est que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas la guerre qui m'intéressait, mais la littérature. Et qu'il fallait me pencher sur ce phénomène de la guerre pour saisir, commencer à comprendre ce qu'était l'élan même, le souffle même de la littérature. C'est pour ça que l'Encyclopédie des guerres commence avec l'Iliade, le premier grand roman occidental. Et pourquoi fallait-il que ce soit un récit de guerre qui ouvre le champ, la voie à la littérature de notre monde? Voilà, donc c'est une réflexion au final qui se saisit de la guerre comme d'un marchepied pour accéder à l'étape ou à l'échelon supérieur qui est celui du récit de la fable, de l'épopée, de l'histoire.
Pas seulement, parce qu'en même temps, c'est une matière d'écriture pour vous, c'est une matière de réflexion, c'est une matière aussi de méditation philosophique, et c'est aussi une mise en mouvement de votre propre moi. Je ne sais pas si votre propre moi, Jean-Yves Jouannet, c'est un personnage, ou si c'est un sujet, ou si c'est de l'autobiographie, mais vous vous mettez en scène dans cette encyclopédie vivante de la guerre, à la fois dans les performances orales que vous faites, mais aussi dans vos propres livres. Vous ne vivez plus que pour essayer de collectionner le plus de livres possible sur la guerre.
Oui, et les lire.
Oui, et avoir le temps de les lire, parce qu'une chose est de les collectionner, déjà ça vous mène aux quatre coins de la planète, et vous prenez tous les moyens possibles et le temps nécessaire pour pouvoir y parvenir, et puis après il faut les lire, une fois que vous les avez, les bouquins.
Il faut les lire et les relire aussi. Puisque le but du jeu, c'est que l'Encyclopédie des guerres finisse par être composée de l'intégralité de tous les livres que j'aurais lus et relus. C'est-à-dire que par exemple, l'Iliade, que j'ai lu 14 fois en 8 ans, est un livre qui est totalement dépecé. J'ai pris à tel endroit telle phrase, tel paragraphe pour les intégrer à l'Encyclopédie des guerres. Donc c'est dépecer l'intégralité de ma bibliothèque de guerre pour en faire un seul et même récit encyclopédique, en fin de compte. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Enfin, je suis bien conscient que ça, je n'y arriverai pas. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle l'Encyclopédie des guerres n'est que la somme de ces moments tout à fait éphémères de littérature orale qui ne connaîtra jamais de destin éditorial. Il n'y aura jamais de livre de l'Encyclopédie des guerres. Il est déjà trop tard pour commencer à y réfléchir. Donc je suis emporté dans cette chose-là, qui est cette jouissance et cette crainte, cet effroi de la parole vivante et improvisée. Mais c'est cet effroi et cette jouissance qui me nourrissent. Et après, pour compléter la réponse à votre question, en effet, il y a des livres. 2-3 livres, dont le dernier, la bibliothèque d'Hansreiter, qui sont comme échappés de ces moments d'oralité. Parce qu'à un moment très précis, et je m'en souviens à chaque fois, j'ai trébuché sur un mot ou une phrase que je me suis entendu dire, et je me suis dit, là, cela mérite quand même un peu plus d'effort et de profondeur et de temps. Donc peut-être un livre est nécessaire pour expliquer, là en l'occurrence, pourquoi la guerre serait-elle une blague ou pas.
Alors, cette bibliothèque de Hansreiter, il faut expliquer le titre de votre dernier ouvrage, Jean-Yves Jouannet. Ça fait référence, parce que vous êtes comme Borges, c'est sans arrêt des citations, de citations, de citations, des jeux de pistes, à ce très grand écrivain, aujourd'hui pas très connu, qui va peut-être être reconnu d'ailleurs l'été prochain, parce qu'un jeune metteur en scène a décidé de mettre en scène pendant, je crois, 8 heures son œuvre maîtresse, c'est Roberto Bolaño. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre livre s'appelle ainsi ?
Alors c'est, moi d'abord, je suis très heureux que vous parliez du vrai Hansreiter, parce que des gens ont été sur Internet, maintenant qu'il y a Internet. Donc, ils ont été chercher Hans Reiter. En fait, quand on va sur Hans... Moi, je sais pas, je vais rarement sur Internet, donc je...
Vous
quand...
aimez bien être dans le brouillard, comme Borges, mettre dans le brouillard.
Mais non, je déteste berner les gens, je supporte pas les supercheries, je déteste les caméras cachées, par exemple. J'aime pas du tout ça. Et donc, des gens vont à Internet, ils voient Hans Reiter, médecin nazi, bon, voilà, donc ça colle pas du tout avec mon Hans Reiter. Mais j'y suis allé depuis, il y a plein de Hans Reiter. Il y a un Hans Reiter qui est préparateur automobile, qui prépare des voitures pour des courses. Pourquoi ils n'ont pas choisi celui-là? C'est pas le mien, il n'est pas sur Internet. Voilà, il n'y a pas de fiche Wikipédia. Et c'est en effet, merci de le rappeler, un personnage de 2666, le dernier ouvrage composite, puisque composé des 5 derniers romans de Bolaño, publié à titre posthume. Et c'est un personnage qui m'a fasciné. C'est un personnage qui connaît la guerre. C'est un Allemand qui se trouve engagé sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il est marié à une folle, il est passionné par les algues. On retrouve ça dans mon livre d'ailleurs, c'est le même, hein, c'est pas un autre. On le compare à une algue, il sait pas pourquoi d'ailleurs, personne ne sait pourquoi. Et il m'a semblé être un personnage parfait pour mon livre, c'est-à-dire que il avait fait ses preuves dans un autre roman et je vois pas pourquoi j'aurais pas pu le recycler. Enfin, c'est un très bon personnage de roman, autant le reprendre tel quel. Donc j'ai rien inventé. Enfin, ceci dit, c'est très étonnant de le préciser aujourd'hui dans ce livre dont on dit qu'il est étrange, bizarre et plein de folie. J'arrive pas à me souvenir d'une chose que j'aurais inventée, à part peut-être en me forçant, en trouvant des petits. Mais le fond est d'une vérité terrible, quoi.
Au milieu de mes lettres, une enveloppe noire attira mon attention. Mon adresse y était portée à la peinture blanche. À l'intérieur, une carte postale ancienne portant comme légende Paris, 28 janvier 1921, inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le cercueil porté par 4 soldats arrive devant la tombe. Les porteurs vont au pas, leur pied gauche est levé, ils regardent devant eux, vers ce qui doit être le bas des Champs-Élysées, et l'assistance autour d'eux regarde dans la même direction. Personne ne regarde le cercueil recouvert du drapeau. Ce soldat n'est pas seulement inconnu, il est déjà seul. Au premier plan, la fosse est béante, par où le petit soldat de France va pénétrer aux enfers, parce que les Champs-Élysées ne sont qu'un recoin des enfers, où les héros, les vertueux, les poètes d'avant le Christ, les soldats inconnus goûtent leur repos dans un printemps éternel aux Champs-Élysées qui sont tout au bout de la terre, avec leur propre soleil, où la plus douce vie leur est offerte, où se trouve aussi un océan qui ne gronde ni n'effraie, mais s'emploie à donner de la fraîcheur aux élus. Je viens de lire un court extrait de votre dernier ouvrage, Jean-Yves Jouannet. Donc le soldat inconnu, il n'est pas du tout inconnu.
Ben, l'histoire, c'est aussi une blague, hein, l'invention du soldat inconnu. C'est pour relier cette anecdote à mon livre. C'est une invention de Maginot, le soldat inconnu. Enfin, je la raconte parce qu'elle, moi, elle me touche. Elle est à la fois burlesque et émouvante. Maginot se dit, voilà, il faut un soldat inconnu. Et c'est la compétition entre les grandes capitales européennes à l'époque. Hein. Londres, Bruxelles, il faut des soldats inconnus. Il n'y en a pas en Allemagne, je crois. Et donc, Maginot fait réunir, il y a 9 régions militaires, réunit 9 cercueils de soldats tombés dans ces régions militaires. Et ces 9 cercueils sont réunis à Douaumont. Et là, on charge un petit soldat à qui on donne un petit bouquet de fleurs de choisir. Voilà. Et donc, il va poser son bouquet sur une des 9 bières. Et ça sera le soldat inconnu. Voilà. C'est dérisoire. Ça ressemble à un jeu d'enfant, à une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelait dans les cours de récréation. Vous savez, on courait comme ça, on déposait un petit... C'est l'invention du soldat inconnu. C'est ça, en fait, par Maginot. Et moi, ça me donne envie de rire et de pleurer. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, ça résume assez bien l'état d'esprit du livre, la manière dont je l'ai écrit. Pourquoi on rit pas de ça? Pourquoi c'est plus possible à un moment donné? Et il y a, à l'ouverture du livre, en incipit, une petite citation de Gus Boffa. Gus Boffa, qui est un grand dessinateur affichiste, mort assez tardivement, en 68, je crois, et qui collaborait au Crapouillot. Et il a perdu l'usage de ses 2 jambes pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il fait ce petit texte dans Crapouillot, 1928, où il dit, mais voilà, il y a un moment, il y a toujours un moment, il est peut-être bref, il est peut-être rapide, il passe vite, où, la guerre étant déclarée, on pourrait encore s'esclaffer et se rendre aux casernes en s'esclaffant, se bidonnant. Et puis soudain, il est trop tard. il y a des morts dans la maison, on ne peut plus rire. Et la guerre est vraiment engagée. Et c'est ce petit moment-là dont je parle là, cette espèce de respiration où le rire serait encore peut-être possible pour dénouer le destin de la guerre, pour dénouer les rigueurs du combat et de voilà, c'est... Mais il est toujours trop tard. Voilà, c'est le drame.
Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est en guerre ?
Oui. Ah, bien sûr. Mais parce qu'on n'a jamais cessé d'être en guerre. En fait, la chose la plus ridicule que j'ai faite, c'est d'intituler l'encyclopédie des guerres, l'encyclopédie des guerres. C'est l'encyclopédie de la guerre. Il n'y en a jamais eu qu'une seule, en fait. Avec des foyers d'intensité. Et voilà, c'est un foyer qui se déplace. C'est comme un grand feu. Voilà, il y a des espaces qui sont carbonisés, donc ils reprendront feu à la saison prochaine. Mais pour le coup, c'est un mouvement circulaire, naturel et éternel qui fait que l'état du monde est la guerre. Enfin, c'est pour ça que j'ai toujours été très, très interloqué par cette idée d'entrer en guerre ou sommes-nous entrés en guerre ou va-t-on en sortir de la guerre? Ben non, enfin, il y a ni l'un ni l'autre, on y est, enfin, de toute éternité. Enfin, c'est ce que je ressens moi.
Au moment de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, Jean-Yves Joynet, vous expliquez qu'après l'armistice, il y a eu des dizaines de milliers de morts.
Dans toutes les guerres. Par exemple, le dernier poilu tombé en 1918 s'appelait Augustin Trébuchon. Il a trébuché, et c'est un jeu de mots ridicule, mais il a trébuché 4 heures plus tard après l'armistice. C'est-à-dire qu'il a trébuché trop tard. Est-ce que sa mort est plus ridicule et plus émouvante parce qu'il est mort trop tard, ou après coup, ou hors délai, ou je sais pas. Moi, ça me choque plus parce que justement, je ne vois plus ces limites-là des armistices et des cessations de combat et de la guerre, encore une fois, est une météorologie, est une donnée météorologique du monde. Mais oui, des hommes meurent à contre-temps, à contrario, de manière plus ou moins grotesque, mais c'est toujours la même mort et c'est toujours la même guerre.
Vos livres, une fois terminés, restent dans la mémoire parce qu'il y a plein d'impensés, il y a plein de fragments de votre écriture qui sont très énigmatiques. Je terminerai sur cette phrase que dit un des amis du narrateur dans votre dernier ouvrage, que meurt avec moi le mystère qui est écrit sur la peau des tigres.
Ben alors, pour le coup, c'est mon ami Éric Mangion, parce que c'est mon véritable ami. Il est dans le livre comme un personnage de roman. Mais enfin, pour le coup, puisqu'on a commencé par l'amitié, autant dire que l'amitié, ça sert aussi à ça, à se raconter des histoires. Et ce qu'il cite, c'est un texte de Borges sur l'énigme de pelage des tigres.
Merci beaucoup, Jean-Yves Joynet. Jean-Yves Joynet, qui a publié de nombreux livres, dont le dernier s'intitule « La bibliothèque de Hans Reiter », publié aux éditions Grasset. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Elodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi. Thank you.